Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le vrai Tchouaméni, je pense qu'il a sa place en tant que titulaire au Real Madrid. Et je suis sûr, je ne suis pas sûr.
What, the best league in the world? Come on, the Premier League. Every single day.
Trois sélections, il vient du Diable Vauvert, hop, trois sélections, il met deux buts. Pourquoi tu ne lui donnes pas sa chance? Ça te donne une possibilité supplémentaire.
Et Nico Paz, il a vraiment fumé comme une cigarette après avoir fait l'amour, si je peux me permettre.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Et bonsoir à toutes et à tous, et bonjour à toi qui nous écoute en podcast, Génération After, spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant deux heures de football étranger. Et pour l'Angleterre ce soir, une drôle de dame qui nous a vendu Daniel Craig, Jude Law et Sean Connery. Pour l'instant sa PL c'est plus Mr Bean et Benny Hill. Bonsoir Julien Laurence. Ouais garçon, on est déçus, hein, on s'ennuie hein.
Là, on joue contre les quatre. On a quatre clubs anglais contre quatre clubs espagnols.
Ok.
On fait 100%.
On fera un bilan lundi prochain. Il y a aucun problème. Pour l'instant, elle n'est pas à l'auteur de ses revenus. Pour l'Espagne, un jeune Padawan visionnaire qui nous a dit la semaine dernière attention, Villarreal sera grand. L'Atlético petit. Victoire 2-0 des Colchoneros ce week-end face à Villarreal. Bonsoir Edgar Grollo.
C'est pas beau ce que tu fais, Nico. C'est pas beau. Bonsoir à tous.
Parle-lui de Bordeaux un peu. Parle-lui de Bordeaux.
Mais ça sert à rien Bordeaux. Tu passes sur une ambulance là. Bref, Edgar en direct de Madrid devant le stade Santiago Bernabéu. Pour l'Italie, une drôle dame qui est avec nous depuis un mois et qui a vécu son orgasme de la saison avec Juve Inter. Merci, au revoir, à la saison prochaine, Daniele Manucci, à bonsoir.
Merci, j'aime ça, c'est vrai, ça suffit.
Ah oui, t'aimes les orgasmes, football, bien sûr. Et pour l'Allemagne, une drôle dame qui a aussi vécu son match fou, hein, Wolfsburg-Cologne, mais lui sait qu'il en aura chaque week-end. Vive la boulie, bonsoir Polo.
Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde.
En direct de Paris, en studio Polo, ce soir, les trois points des drôles dames, 15 secondes chacune. Commence avec toi, Polo, justement.
Y a un petit débat en Allemagne pour savoir si le Bayern Munich est un outsider en Ligue des Champions, ouais. Évidemment, par rapport à ce qui s'est passé un petit peu l'année dernière.
Ça fait déjà réagir sur les réseaux.
J'ai vu ça, mais en tout cas, c'est un débat important. La deuxième chose, évidemment, on va aller du côté de Francfort, parce qu'ils ont un calendrier assez démentiel, la liste de courses. Et donc, on n'a pas droit à l'erreur, donc on va discuter un petit peu de ça. Et puis, tu as parlé de Wolfsburg, la minute sera consacrée
incroyable.
À Wolfsburg-Cologne.
Écoutez bien, si vous n'avez pas vu ce match, une résumé, le scénario complètement dingue de ce duel. Daniele, 15 secondes.
Oui, on va parler de l'orgasme de Inter-Juventus d'ailleurs.
Avec ou sans la cigarette? C'est comment? C'est pendant ou après?
Il y a 7 cigarettes quand même à fumer, donc on a vite fait mal à respirer après ce match. Et après on va parler de Modric avec Milan, on va parler des frères Thuram, bien sûr qu'ils ont fait polémique, et de l'Atalanta qui va voir Paris pour la première fois de sa vie.
Edgar.
Alors, on a un Real Madrid Olympique de Marseille demain. Donc, évidemment, on va faire le point sur ce Real Madrid de Xabi Alonso. On va peut-être donner des indices aux Marseillais sur les points faibles desquels ils pourront profiter peut-être demain soir. On fera aussi un point sur le Barça avant le début de cette Ligue des Champions. On se posera cette question. Qui est le plus important pour Hansi Flick, Pedri ou Lamine Yamal? Et pendant la minute, on ira du côté de Getafe. On parlera de l'entraîneur José Bordalas. Lui, vous lui donnez 11 bouts de bois et il arrive à vous maintenir en ligne.
Ils apprécieront les 11 bouts de bois. Julien.
On a eu le derby de Manchester hier entre United et City United. Ça s'est mal passé pour United et Ruben Amorim est sous pression énormément avant le match du week-end prochain contre Chelsea. On parlera d'Aston Villa, ça ne va pas bien du tout. Pas de victoire et surtout pas de but marqué encore pour l'instant cette saison. Et puis on aura une minute très sympa, un peu carnet rose mais très sympa quand même.
Ah, le retour du carnet rose de Julien Laurence. Tiens, personne ne nous dit sur le chat de la chaîne YouTube, j'en ai gros sur la patate, si ça parle de Manchester United ce soir, évidemment qu'on va en parler. Julien vient de le dire avec notamment une sortie de Roy Keane, Julien, qu'on écoutera, qui doit faire beaucoup parler chez toi en Angleterre. Alors, l'after à 22h prend le relais jusqu'à minuit comme tous les soirs. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars, on va parler Ligue des Champions, les clubs français bien sûr, qui à partir de demain seront sur RMC. L'OM va rentrer en lice en premier face au Real demain soir. On saura tout avant le match bien sûr. Florent Germain est avec Edgar Grollo à Madrid. Plus les infos parisiennes, monégasques. Et puis après 23h, Jean-Louis Tour a des idées pour améliorer l'arbitrage. On verra s'il est convaincant. On va également revenir sur la sortie de Liam Rosenior qui est en colère. Il a défendu Emega. Il ne comprend pas la réaction de certains supporters strasbourgeois. On y reviendra également tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore au programme? J'ai un autre truc que j'ai oublié.
Mais c'est pas grave. C'est déjà dense là. Hein. Ce sera à 22h.
Non, c'est important.
C'est important. La Ligue?
Ah bah oui. Merci.
Peut-être. Ouais.
Le conseil d'administration de la Ligue ce soir, qui était apparemment assez chaud. On vous raconte tout tout à l'heure, puisqu'on a des infos.
Ah.
Eh oui.
La révolution est en marche. Pas vraiment.
Peut-être pas.
Peut-être pas en fait. Tout à l'heure, Gilbert.
Ce soir, tout à l'heure.
L'after à 22h, c'est parti pour Génération After. 32-16 pour nous appeler, n'hésitez pas à poser vos questions à Julien, Polo, Edgar et Daniele. Numéro WhatsApp également, vous connaissez, 0612 424 424. Et puis je vous rappelle qu'on est également en direct vidéo sur la chaîne YouTube de l'After. Alors c'est parti, commençons avec toi Edgar, ce mardi soir 21h, le Real reçoit l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM va affronter un grand Real, oui non Edgar?
En tout cas, ils vont affronter un bon Real Madrid, parce qu'on pouvait difficilement imaginer mieux pour un début de Liga avec un nouvel entraîneur. Ils ont fait le point, ils ont remporté un match très compliqué, toujours très compliqué sur la pelouse de la Real Sociedad ce week-end, 2-1, avec un très grand Kylian Mbappé, faut le dire. Il l'a répété il y a quelques jours, l'OM est l'une de ses proies favorites en carrière. Il a bien envie de leur jouer un mauvais tour, et ça tombe à pic pour le Real, parce que on a vu un Kylian Mbappé très très bien en jambes, qui sert bien ses coéquipiers, qui termine bien ses propres actions, qui est très vif, très rapide, et surtout on sent une équipe de Xabi Alonso qui continue progressivement, petit à petit, de prendre ses marques, d'avoir de plus en plus de certitude, d'avoir des individualités qui décidément semaine après semaine se dégagent. Je pense à Arda Güler, je pense à Aurélien Tchouaméni, Alvaro Carreras aussi, la recrue qui fait un très très bon boulot sur le côté gauche de la défense. En tout cas, l'OM va retrouver un bon Real Madrid demain, mais c'est toujours un Real Madrid forcément en construction.
Il va falloir laisser combien de temps encore à Xabi Alonso? Certes, il est arrivé au début de l'été, Coupe du Monde des clubs, 4 journées en Liga, pour qu'on voit vraiment ce qu'il sait, ce qu'il a pu déployer au Bayer Leverkusen. Est-ce qu'il y a un peu d'impatience sur la forme, en tout cas sur le jeu proposé par le Real, ou pas du tout pour l'instant?
Non, il n'y a pas d'impatience, parce que on voit vraiment une progression constante. Ce que nous disaient les joueurs quand on était à la Coupe du Monde des clubs, ils nous disaient, c'est pas en 4 jours qu'on va changer les habitudes forcément qu'on avait avec un autre coach, Carlo Ancelotti, qui avait une autre mentalité, une autre façon de jouer, d'autres indications qu'il donnait aux joueurs. Et donc petit à petit, on voit les mécanismes qui commencent à se mettre en place. On voit les joueurs qui essayent d'aller récupérer le ballon dès la perte de balle, même si voilà, c'est toujours une équipe en construction, comme je disais. Et donc tu vas avoir toujours des oublis, tu vas avoir des joueurs qui ne se connaissent pas encore parfaitement, notamment en défense. Et je pense que c'est un point sur lequel l'OM pourra s'appuyer, c'est que cette équipe du Real Madrid, tous les joueurs ne se connaissent pas parfaitement, et donc tu as des erreurs. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un point faible dans cette défense du Real Madrid, c'est la profondeur dans le dos des défenseurs centraux. On l'a encore vu avec Dino Huysen ce week-end, qui fait une faute qui lui vaut un carton rouge assez sévère, mais qui fait penser déjà à un carton rouge qui s'était pris lors de la Coupe du Monde des clubs face à Dortmund. Asensio s'était aussi pris un carton rouge en étant pris dans le dos lors de cette même Coupe du Monde. Et on a l'impression en tout cas que c'est peut-être un point faible, cette profondeur de la défense, là où l'année dernière c'était plutôt l'espace entre les latéraux et les défenseurs centraux qui posait très très souvent problème. Voilà, il n'y a pas de frustration autour de cette équipe de Xabi Alonso, parce que pour l'instant ils prennent les points, parce qu'il y a des choses quand même intéressantes. Il manque encore, je pense, une victoire vraiment marquante, large, face à un adversaire où il n'aurait douté à aucun moment. C'est ce qui manque encore à cette équipe pour vraiment se dire, voilà,
gars, est-ce qu'on considère que Marseille demain soir c'est un premier test ou pas du tout? Comment traite la presse espagnole, les médias espagnols l'avenue de l'OM?
Alors déjà, faut séparer les supporters du Real et la presse, parce que la presse évidemment prend quand même l'OM au sérieux, parce que quand on regarde de l'OM, il y a quand même des joueurs de qualité, des joueurs que les journalistes espagnols connaissent évidemment. Je pense à Aubameyang, je pense à Greenwood, ce sont des noms qui leur parlent évidemment. Benjamin Pavard, Aguirre qui n'est pas là, mais en tout cas il y a un effectif qui leur parle, hein. C'est pas comme aller jouer certains petits poussets de cette Ligue des Champions. Ils savent que ce n'est pas a priori l'un des matchs les plus faciles possibles dans cette Ligue des Champions, même si c'est un match évidemment abordable pour le Real Madrid. C'est un bon test, et c'est une façon parfaite, c'est plutôt comme ça qu'il le voit, c'est une façon parfaite pour Xabi Alonso de commencer son aventure en Ligue des Champions avec le Real Madrid à domicile, face à une équipe qui a à la fois du prestige historique, parce que même en Espagne ici on reconnaît quand même que l'Olympique de Marseille a une histoire, et d'ailleurs les supporters auxquels on parle généralement, ils pensent à l'histoire de l'OM l'OM plutôt qu'au joueur actuel. Ils connaissent pas forcément très très bien l'effectif, mais ils savent que l'OM c'est une équipe sérieuse historiquement. Et donc battre cette équipe là pour commencer la saison, s'ils arrivent à avoir une victoire assez nette ou au moins maîtrisée, je pense que là ce serait vraiment un très bon message envoyé par Xabi Alonso et son équipe.
Daniel, tu avais une question à poser à Edgar.
Oui, je voulais demander justement si la forme d'Mbappé, c'était pas aussi un peu un problème pour Madrid, c'est-à-dire s'ils sont pas un peu dépendants de Mbappé quand c'est lui qui arrive à sortir, à donner la fin à l'action, c'est bien, mais quand lui il est pas en très très forme ou il trouve pas la solution, ils ont du mal dans les jeux collectifs. Vous aussi le fait que Vinicius depuis quelques temps c'est un peu fantomatique, on va dire.
Oui, je pense que t'as raison sur un point, c'est que je pense que la forme actuelle de Kylian Mbappé embellit notre vision des premiers pas de Xabi Alonso au Real Madrid, parce que c'est sûr que notamment tu regardes le dernier match face à la Real Sociedad, c'est lui qui fait les différences, c'est lui qui prend de vitesse les défenseurs, c'est lui-même qui fait une passe décisive pour Arda Güler sur une très très belle action. Donc effectivement, je pense que les résultats du Real Madrid avec un Kylian Mbappé un petit peu moins brillant, ne serait-ce que le Kylian Mbappé de la saison dernière, on aurait peut-être pas forcément la même image, mais comme je disais, t'as quand même des individualités qui ressortent comme Güler, comme Chouaméni. Je pense que maintenant, au fil des semaines, on va voir des joueurs soit vraiment saisir ce que veut Xabi Alonso et se mettre en valeur et devenir des titulaires indiscutables et vraiment porter l'équipe, soit peut-être que d'autres joueurs vont moins prendre, ne vont pas forcément bien intégrer les consignes de Xabi Alonso. Et j'ai l'impression que c'est un coach qui est vraiment en train de tester plein de choses différentes. La composition change assez drastiquement d'un match à l'autre, avec des joueurs qui paraissaient en fin de banc et qui le lendemain vont se retrouver titulaires. Je pense à Rodrigo, je pense à Ceballos. Xabi, il est encore en train de tester tout le monde, et effectivement je pense que les performances de Kylian Mbappé nous donnent une meilleure image peut-être du Real Madrid que son véritable. Mais le truc c'est que demain Kylian Mbappé il sera là et il va être plus motivé que jamais. Ouais, face à l'OM, il va avoir envie exactement, il va avoir envie de faire le match statement, on va dire, comme dirait Julien, pour vraiment marquer le début de sa saison aux yeux du monde, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un match de Ligue des Champions à Bernabéu pour faire ça. Ouais.
Bon, il installe aussi Arda Güler en numéro 10, on en reparlera, on va suivre l'évolution de l'international turc dans ce positionnement. Tiens, avant de parler de Luka Modric dans un instant et du Milan avec toi Daniele, Polo, l'actualité c'est aussi un nouveau coach débarqué en Bundesliga, le coach du Borussia Mönchengladbach, on l'a appris il y a 2 heures à peu près.
Ouais, le Suisse Seoane qui est excellent en conférence de presse, peut-être un peu moins sur un terrain. Seoane donc évidemment, prestation dramatique hier dans la dernière rencontre à domicile contre Brême, 4-0, ils ont pas existé, c'est tendu depuis le début de la saison et je serais pas surpris si on continue comme ça qu'à la fin de la saison, et ben justement, ouais, le Borussia Mönchengladbach et ben soit un candidat à la relégation, et il y a plusieurs clubs comme ça, 4-5. Donc il est remplacé par Polanski qui est un ancien joueur bien connu notamment de Mayence, et bon, on va voir ce que ça va, mais ils doivent absolument se relever, mais ça courait déjà depuis hier soir.
Ça fait déjà deux coachs limogés en 3 journées en Bundesliga après Erik ten Hag au Bayer Leverkusen. Alors Daniele, le Milan qui, je le rappelle, ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, a donc battu Bologne 1-0 grâce à un gars de 40 ans, il s'appelle Luka Modric, hein, puisqu'on parlait du Real. Quelle conclusion faut-il en tirer, Luka Modric, déjà sa prestation face à Bologne et depuis le début de la saison en Serie A, comment tu le trouves?
Ben, très bien, c'est déjà les joueurs les plus importants de Milan, c'est lui qui commence l'action et que, comme sur le but, la termine aussi. Et il faut dire que c'est les 6e joueurs les plus anciens avec plus de 40 ans à marquer en Serie A. Ben, le plus ancien de tous c'était Ibrahimovic qui avait marqué à 41 ans passés. Mais c'était un match assez médiocre, il faut dire, dans lequel Bologne n'a pas cadré les moindres tirs et a presque complètement disparu sur le terrain de la deuxième période. Mais ça montre, je pense, aussi une autre chose, le fait que Modric soit si important et que il joue si bien en Italie. C'est-à-dire le fait que paradoxalement, dans un championnat surtout physique, ce sont les joueurs capables de contrôler les rythmes et la direction de jeu balle au pied qui peuvent en réalité avoir un impact plus durable. Il y a eu une étude sortie récemment selon les CS Football Observatory, selon lesquels la Serie A est le championnat le plus grand du monde, avec une taille moyenne de plus qu'1,84 m. Et c'est plus haut que le championnat norvégien et l'allemand, même si la moyenne du pays, l'Italie, elle n'est pas la plus grande, même juste en considération de l'Europe du Sud. On est parmi les plus petits. Cagliari, c'est les clubs les plus grands du monde. Et l'Atalanta, c'est les troisièmes. Et il n'y avait même pas dans les classements parce qu'il manquait les données. L'Udinese, qui, je pense, est la plus grande en moyenne.
Mais quelle conclusion ils en tirent après? C'est bien beau une étude. Une fois qu'on dit que c'est 1m84 la taille moyenne.
On fait l'âge.
Oui, c'est un championnat de.
C'est l'âge.
On choisit.
C'est pas la centimètre, Daniel. C'est l'âge, non? Les joueurs.
Oui, parce que c'est un peu le championnat EHPAD dans la Serie A. Hein. On avait avec l'Inter, hein, où tu survoles avec des mecs de 38 ans.
Mais dans un championnat très physique, où les poisons, c'est justement la puissance physique, l'antidote, c'est la technique. C'est ça, ce que je voulais dire. C'est qu'après, on peut dire que
Modric s'en tire comme ça aussi, tu veux dire. C'est ça.
Bah oui, voilà. C'est-à-dire, sur le plan physique, toutes les équipes là, elles se contrastent. Il y a toujours des matchs assez bloqués, des duels, où il y a des joueurs grands, puissants, qui par contre ils n'ont pas beaucoup de contrôle. Quand il y a un joueur qui a un contrôle comme Modric, ben, ça fait toute la différence du monde.
On est sûr que ce n'est pas parce qu'ils sont grands et lents en Serie A que ça joue beaucoup moins vite qu'ailleurs?
Non, ils ne sont pas très lents. Hein. Quand même, il y a une bonne intensité de plus en plus. Après, on ne prend pas beaucoup de risques, donc il y a beaucoup de blocs bas et on a tendance à ne pas donner beaucoup d'espace en profondeur. Mais après, l'intensité au milieu de terrain surtout, là où joue Modric, il y en a, mais après on peut voir la différence entre un joueur comme Modric qui contrôle la balle, il s'y retourne, il va où il veut, et des joueurs qui ont du mal déjà à contrôler la balle quand ils ont entouré un ou deux joueurs.
Edgar, on regarde encore ce que fait Modric ou pas justement, parce que là il enchaîne les matchs avec le Milan, ce qui n'était vraiment pas le cas avec le Real saison dernière.
Oui, on regarde beaucoup. Alors après, faut quand même garder en tête que l'année dernière, c'était le deuxième joueur du Real Madrid qui avait joué le plus de matchs. Alors, il est évidemment en termes de minutes, il était bien en dessous que d'autres joueurs parce que généralement c'était en tant que remplaçant. Mais c'est quand même un joueur qui a fait toute la saison sans se blesser, qui répondait toujours présent et surtout un joueur où on avait la sensation que quand il était sur le terrain, l'équipe globalement était meilleure. Et je pense qu'il y a même certains supporters du Real qui le regrettent un peu. S'il n'y avait pas l'éclosion d'Arda Güler, ils auraient envie d'avoir ce profil créatif, mais Daniele, je pense que Modric, même à son âge, ça reste aujourd'hui sur la planète football l'un des joueurs quand t'as besoin de débloquer un match sur une passe, quand t'as besoin de trouver un centre face à un bloc bas qui peut te sortir d'une situation compliquée. Donc à Madrid, il y a toujours cette fascination évidemment pour Modric. Les gens suivent ses prestations à Milan et les médias. Parce que j'ai presque envie de dire qu'ils sont pas surpris, parce qu'ils l'ont vu briller jusqu'à quasiment cet âge-là au Real.
Mais c'est intéressant parce que à l'instant là, Polo mettait en avant l'âge moyen peut-être pour s'intéresser à ça en Serie A, alors que tous les autres championnats font du jeunisme et veulent absolument recruter des mecs de 19, 18, 20, 21, 22 ans, prime à la jeunesse pour des raisons de trading aussi plus tard. En Italie, on a l'impression que c'est pas forcément un choix d'ailleurs, c'est plus subi qu'autre chose. Oui. On mise sur les anciens, Daniel.
Je pense que ça coûte plus cher la jeunesse.
C'est ça.
Mais c'est aussi une question de culture. On a pas de confiance dans les jeunes. Ça, on le dit depuis longtemps. C'est pas un pays pour jeunes. Et là, ça fait beaucoup d'années qu'on dit ça. Il y a des équipes qui prennent des risques, comme par exemple Parme. Ils ont pris les risques même sur les bancs. Cuesta, il a même pas 30 ans, il vient de faire 30 ans. Et c'est leur entraîneur, l'Espagnol en plus. Donc voilà, c'est vraiment contre-culturel. Mais normalement, ça va plutôt dans la direction des Allegri, des Sarri, des Gasperini, c'est-à-dire des gens experts. Et sur les terrains, c'est la même chose. C'est des joueurs experts qui assurent la prestation, même s'ils n'assurent pas les quelque chose en plus que Modric, bien sûr, il a toujours parce que c'est un phénomène. Mais pour un Modric qui a de l'expérience et de la créativité et de la génialité, il y a 10, 15 joueurs qui ont juste l'expérience en Serie A.
Bon, sinon, Rabiot a fait une bonne première ou pas? Qui voulait parler là?
Non, j'allais juste dire que ça aide aussi quand t'as Fofana et Rabiot de chaque côté.
Qui font le taf à côté, autour de toi.
Quand t'as pas le ballon.
Mais en même temps, c'est ça que c'est drôle, parce que Modric, il fait beaucoup de travail défensif aussi au Milan.
Oui, mais c'est pas le même impact physique, Daniel, que les deux autres. C'est ça que je veux dire.
Non, mais il y a
courir,
pas raison,
parce courir, que... Courir, il peut courir. Mais dans les duels et tout ça, et c'est moins fort que Fofana et Rabiot.
Non, mais par exemple, hier, il a intercepté beaucoup de passes au milieu de terrain avec sa capacité de lire le jeu. Lorsque Rabiot, Fofana, ils vont dans les duels. Et en Italie, sur ça, on devient de mieux en mieux à jouer contre les duels, contre les marquages individuels. Donc, ça aussi, ça fait un peu la différence. Quelqu'un qui est habitué à lire les jeux. Rabiot, il a bien joué. Il a eu tout de suite un impact. Il a été mis sur le côté gauche dans 4-4-2, vraiment années 90. On dirait que voilà, Allegri plutôt que la veste qu'il a enlevée, il s'est fait expulser à la fin du match. Mais au-dessous de la veste, il doit avoir un t-shirt de Nirvana pour vraiment, parce que son foot, c'est vraiment un foot des années 90.
4-4-2. Un foot grunge.
Bah, c'est un foot ouais, vintage, je dirais, avec des trous partout et qu'il faut passer à la machine. Mais c'est assez drôle, mais ça marche. En Italie, ça marche. Après, il n'a pas fait un match pétillant. Il faut dire que Bologne aussi, c'est une équipe très physique. Donc, ça a marché aussi parce que Bologne, il n'avait pas beaucoup de choses à répondre. Mais Milan, il aurait pu mettre plus de buts. Jiménez, il a raté... deux buts incroyables, les deuxièmes franchement incompréhensibles parce qu'il essaye de dribbler les gardiens quand les gardiens il est à 5 mètres et donc il finit presque en dehors du terrain. Mais voilà, on dit en Italie qu'il est pas tranquille, il a un problème mental, donc tout le San Siro l'a applaudi, l'a traité un peu comme un chouchou parce qu'il est en difficulté. Mais à part ça, Milan il a largement dominé les matchs.
Rabiot, comment tu juges sa première là?
Rabiot, ouais. il était bien parce que on dirait qu'il est chez lui. Il a eu un impact physique, bien sûr, mais aussi technique. À la 58e minute, j'ai encore le souvenir frais dans la tête. Il part sur le côté gauche, balle au pied, il passe entre deux joueurs et tout San Siro, il était début, ils étaient enthousiastes parce que la technique de Rabiot, que je suis d'accord, c'est pas un joueur très technique, mais sa technique avec sa puissance physique en Italie fait la différence. Et en plus, un joueur voilà, aussi sympa, je veux dire. Je sais pas, les Italiens, ils l'aiment. Il a quelque chose que les Italiens ont tendance à aimer. Après, Allegri l'adore. Dès qu'il a vu dans les vestiaires, il a appelé des vagabonds. Il a dit, oh, vagabond, toi où? Et le deuxième, l'attaché de Allegri, pendant tout le match, il appelait monsieur. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'un peu drôle dans le match.
C'est un peu
il a bien joué une coucou aussi.
Une quinzaine de minutes de coucou, c'est ça, ouais.
Oui, mais lui, par contre, il a montré une sensibilité sur les ballons techniques et une rapidité différente. En fait, il a pris un penalty qu'après les VAR, il a enlevé. On n'a pas toujours compris pourquoi. Mais en gros, il a pris deux fautes dans la même action. Il a pris une faute. Il est tombé. Il s'est relevé, il a repris la balle, tout ça entouré des quatre joueurs. Il a vraiment une rapidité différente. Après, ça, c'est les joueurs que moi, je préfère. Mais c'est vrai qu'en Italie, les joueurs comme Rabiot, ils ont longue vie. On va voir pour un concours.
Fait pour jouer en série, peut-être Adrien Rabiot. Allez, c'est l'heure de la première minute de la soirée. Elle est allemande. On envoie la musique, Polo.
Mein Götten, Centro, Mades. Je crois que c'est de l'électro-gothique, ça s'appelle comme ça maintenant.
C'est vieux ou pas, ou c'est récent?
Non, c'est assez récent. Et ça marche très bien. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de DS? C'était ce week-end, les 80 ans du club de Wolfsburg, créé en 1945. Et on a eu le droit à un scénario complètement fou, puisque on a eu plusieurs arrêts de jeu. DS Météo, qui à la 24e minute, un orage diluvien, on est forcé de faire rentrer les joueurs. Début de seconde mi-temps, DS bombe artisanale, évidemment, pour les 80 ans. Donc on s'est retrouvé évidemment à nouveau avec beaucoup de minutes d'arrêt. Et puis DS technologique, la VAR évidemment, bloqué pendant 10 minutes sans rien comprendre avec les images qu'on voyait. Et puis DS Bundesliga, puisque on avait 2-1 pour Wolfsburg lors des arrêts de jeu, 14 minutes d'arrêt de jeu, 3 buts durant les arrêts de jeu, dont un coup franc extraordinaire du capitaine Arnold, et Cologne le promu qui égalise au bout de 14 à l'ultime minute à la 104e, 3-3, match extraordinaire pour un anniversaire et une fête quasi parfaite.
Incroyable, 3 partout, 3 buts dans le temps additionnel, c'est aussi ça la Bundesliga bien sûr. Petit virage musical Polo, ou c'est à force de fouiller le répertoire allemand?
Non, mais j'ai pensé à Rammstein et j'ai bien aimé celle-là. Et surtout j'aime beaucoup le clip, par contre je ne vais pas traduire les paroles.
Ah bon, faut pas?
Bah, on a des jeunes qui écoutent quand même.
D'accord, ok. Ouais. Allez, on fait une pause. On revient dans un instant sur RMC avec les drôles de dames à venir à Aston Villa. Donnay Emery va-t-il vivre une saison en enfer et le FC Bayern n'est-il plus qu'un outsider en Bundesliga? Pour nous appeler au 32-16, bien sûr. Vous écoutez RMC, les drôles de dames sont là.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Edgar Grelot, Daniele Manoussia, Julien Laurence et Paulo Breitner. On est ensemble jusqu'à 22h. N'hésitez pas à faire le 32-16. Posez vos questions aux quatre drôles de dames du lundi soir. Dans un instant, le FC Bayern doit-il être considéré comme un favori ou un outsider de la Ligue des Champions? On en parle avec Paulo. D'abord, parlons d'un quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, Julien. Aston Villa, début de saison catastrophique, 19e de Première Ligue, aucune victoire, mais une stat encore plus inquiétante.
Ouais, encore plus inquiétante. Alors, je l'ai même affiné par rapport à ce que j'avais envoyé ce matin. C'est que Aston Villa est le seul club en Angleterre parmi les 8 premières divisions, donc plus les 7 que je vous avais dit ce matin, et les 8 premières divisions, donc 427 clubs en Angleterre qui font partie de ces 8 premières divisions, donc de la première ligue jusqu'à la 8e division, forcément. C'est le seul club à ne pas avoir inscrit un seul but cette saison. 4 matchs de première ligue, 0 victoire, tu l'as dit, 2 matchs nuls, 2 matchs nuls où ils étaient d'ailleurs sous pression, ils n'auraient même pas dû avoir un point, et 0 but marqué lors de ces 4 journées de championnat. Quand tu as quand même des joueurs comme Watkins ou Rodgers ou Tielemans ou Sancho qui vient d'arriver en prêt et que tu n'arrives même pas à marquer, et c'est même pas que tu ne marques pas, c'est que tu te crées pas non plus de grosses occasions dans ces rencontres là c'est des matchs avec des expected goals de 0,3 par exemple comme à Everton le week-end dernier. C'est très inquiétant de la part de Villa et d'Unai Emery. Alors, la saison dernière, par exemple, ils ont eu une période à un moment où ça allait pas non plus. Ils ont perdu, je crois, ils ont gagné qu'un match sur 10 à un moment en championnat. Mais de démarrer de cette façon-là, c'est assez catastrophique quand même. Ils ont eu un été compliqué parce que ils ont des problèmes financiers. Ils ont beaucoup, beaucoup trop dépensé par le passé. Et que
c'est-à-dire quoi? Ils ont une dette à éponger. Quel est l'état des finances de cette Villa, là, aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Alors, une dette à éponger, pas forcément, mais avec le fair play financier anglais, donc le fameux PSR. Tu peux pas non plus te permettre de dépenser n'importe comment. Ils l'ont fait beaucoup. Ça leur a permis d'aller en Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'avec ce modèle-là, il faut que tu sois tous les ans en Ligue des Champions. Et que tous les ans, cette manne financière de la Ligue des Champions te revienne. Et dans ce cas-là, tu équilibres tes comptes. Et là, il n'y a pas de problème. Le problème, par exemple, pour Aston Villa, pardon, c'est qu'ils ont un ratio de salaire, par rapport comparé aux revenus du club de 96%. Donc, quasiment tout ce qu'ils gagnent comme argent, ça part dans le salaire des joueurs. Donc ça, déjà, à la base, c'est impossible. Tu peux pas fonctionner comme ça, Edgar le connaît bien.
96% de leurs revenus vont dans la masse salariale.
Exactement. Donc c'est un peu ce que le Barça a vécu, finalement. Ouais. Edgar le sait bien. C'est ce qui a... Alors oui, c'était encore pire que ça, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Donc il fallait que Villa fasse des économies cet été. Tu pouvais pas non plus recruter des joueurs comme tu le souhaitais. Donc ils ont essayé de faire Paqueta, par exemple, lors du dernier jour du marché de transfert, mais ça pouvait être qu'un prêt avec une obligation de le recruter l'été prochain, mais il pouvait pas faire un transfert sec maintenant parce qu'il avait pas l'argent. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et si en plus sur le terrain ça va pas bien, alors là c'est que en plus des finances sur le terrain ça va pas, c'est pas bon pour l'avenir.
Lindelof est arrivé, Harvey Elliott, c'est Liverpool,
en prêt,
Jadon Sancho,
en prêt,
Marco Bizot de Brest. Voilà. Et Evan Guessant, c'est la seule friandise, hein, 35 millions d'euros.
C'est ça.
Voilà, on avait Evan Guessant
qui a été compensé par des ventes, mais ouais, c'est tout ce qu'ils ont pu faire.
Mon Dieu. Je sais pas comment faut le lire, mais en tout cas, ça rend la première ligue peut-être plus humaine d'un coup d'un seul, là, quand on voit que quand on dépense énormément, on peut aussi se cracher, quoi.
Bah, il y a deux, je vais pas taper sur Julien et sur la première ligue, mais il y a quand même deux questions qui se posent. La première, c'est que font les autorités? Parce que ça arrive pas comme ça, 96%. C'est pas du jour au lendemain.
En Ligue 1, il y a une limite, je crois. Massa doit composer 112%, je crois, de tes revenus. Là, on est à 96%.
Et pour info, pour nos auditeurs, pour l'avoir étudié, pour qu'un club de football soit à l'équilibre, il faut à peu près une masse salariale de 60%. Ouais. C'est à peu près ça. Donc on est à peu près... alors évidemment, il peut y avoir des propriétaires qui mettent de l'argent au pot et tout ça. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est même pas le fait... Moi, je suis triste un peu pour le club, qui n'est pas n'importe quel club. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là avant que les autorités interviennent. Moi, je n'arrive pas à le comprendre, ça.
Oui, pour assurer la sauvegarde du club à terme, la pérennité, une stabilité. Et aujourd'hui, voilà. Bon, on n'est pas encore parti sur. Bon, on va voir, hein, Julien. Hein. Je sais pas comment on traite Aston Villa en Angleterre. Si on imagine que aujourd'hui les Villans sont un candidat à la relégation, on n'en est pas encore là après 4 journées. Il y a aussi une Ligue Europa à jouer, mais pourtant il y a une stabilité de l'effectif malgré tout, tu vois. T'as l'équipe qui a amené ce club-là en quart de finale la saison dernière.
Oui, c'est pour ça que ça devrait repartir. Et puis Unai Emery n'est pas vraiment sous pression. Et puis même s'il était sous pression, juste pour rappeler avant qu'on en termine sur Aston Villa, c'est qu'il a quand même ramené tout son village au club. Hein. Donc c'est-à-dire que tout son staff, tous les gens au-dessus dans les bureaux, c'est à lui. Donc si tu veux le virer lui, il faudra virer tout le monde. Je crois en tout, ils sont, je crois qu'il a un staff élargi à 16. Ils sont 16 déjà. Ils sont tous espagnols. C'est tous à lui quasiment. À part un ou deux qui sont là, mais même Austin McPhew par exemple, qui est son adjoint qui est en charge des coups de pied arrêtés, là, qui fait du très bon travail d'ailleurs. Mais sinon, c'est vraiment, ils sont tous espagnols. Monchi est là, bien sûr. Damien Villagani est là aussi, qui est le grand patron du club. Enfin voilà, ils sont partout, donc c'est compliqué aussi. Mais à un moment, il t'a tellement apporté que c'est normal que tu lui renvoies la confiance. En acceptant ce qu'il te demande en tant que donc aller recruter telle personne, agrandir son staff, tout ce qu'on veut. Le jour où ça marche plus trop, ben on va voir comment ça va faire. Mais c'est vrai, t'as pas le feu, ça fait que 4 journées simplement. C'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est un début de saison qu'on n'avait pas vu venir de cette façon-là pour Aston Villa. Et c'est un peu inquiétant. Ils vont à Brentford, par exemple, demain en Coupe de la Ligue. Bon, la Coupe de la Ligue, c'est le dernier de leurs soucis. Mais après, ils vont aller à Sunderland. Ils jouent Bologne en Europa League la semaine prochaine pour le début de l'Europa League. C'est pas facile non plus. Il y aura Feyenoord ensuite. Ils ont même pas été, en plus, ils ont été plutôt, pas servis par un bon tirage non plus. Donc, c'est vrai que c'est pour l'instant un début de saison, assez cauchemardesque.
Ouais, t'as raison. Bologne, semaine prochaine, pour débuter la campagne de Ligue Europa. Vous avez un monument en péril, là, au championnat ou pas, actuellement, là? Daniele, en Italie. Oui. Qui, lequel?
Mais, si tu veux, il y a la Sampdoria que, oui. Elle a été temporairement reléguée en Serie C l'année dernière, c'est-à-dire en troisième division. Et elle a été repêchée pour les playoffs, qu'après elle a gagné contre la Salernitana. Mais bon, cette année, j'ai regardé les matchs. Ils sont encore dernières. Ils ont perdu tous les trois matchs qu'ils ont joués. Donc, et la Sampdoria, je rappelle pour qui la connaissent pas beaucoup, mais en 92, elle a fait la finale des Ligues des Champions quand même.
Eh oui. C'est notre génération, avec une légion de joueurs français, notamment dans les années 90, sous le milieu de la Samp. Polo, chez toi en Allemagne, s'il fallait en sortir un monument en grande difficulté.
Alors, on en parle rarement, et j'ai rarement dû en parler depuis 2009, mais l'actuel dernier de deuxième division, c'est le FC Nuremberg.
Ah oui. Ils sont derniers, tu vois.
Ouais, ils sont derniers, c'est Miroslav Klose, le coach, c'est compliqué. Alors, évidemment, pour les jeunes générations, Nuremberg, et même pour les anciennes d'ailleurs, ça veut pas dire grand chose, mais on dit toujours en Allemagne que les titres vont en Bavière et le cœur du football allemand est dans la Rouen. Et ce qu'on oublie, c'est qu'avant le Bayern Munich, le grand club qui raflait tout, c'était Nuremberg. Et jusqu'au dernier titre en Bundesliga daté de 68. Et en fait, ils ont énormément. Donc c'est pareil, stade de 50 000 places, etc. Et on oublie un petit peu, bah là, en ce moment, il est en dernière division. Je pourrais parler de Schalke aussi, mais bon, ça va un peu mieux, même s'il y a une grosse restructuration financière. Mais en tout cas, si Nuremberg va en descendre, par contre, en troisième division, comme c'est une région, une ville, qui est beaucoup moins riche que la Bavière version munichoise, j'ai peur que ce soit compliqué.
Nuremberg. Chez toi, Edgar?
Oui, bah je pense tout de suite au FC Séville notamment, qui était sur le toit de l'Europe ou en tout cas de la C3 il y a quelques années et qui souffre beaucoup. Les supporters au début de saison étaient très très inquiets, se disaient, avaient un petit peu peur que leur club joue un petit peu trop avec le feu. Ils ont des problèmes financiers et après je pense aussi forcément à Valence hein, qui là aussi a beaucoup souffert, s'est fait peur ces dernières saisons et là aussi t'as des difficultés financières. De toute façon, ces clubs historiques, pour se retrouver dans ces situations-là, c'est souvent avec des difficultés financières. Mais c'est vraiment deux monuments du foot espagnol qui ne sont vraiment pas au mieux de leur forme, alors qu'il y a seulement quelques années, surtout Séville, mais si on remonte un petit peu plus loin, Valence aussi, ils étaient toujours dans les meilleures équipes du championnat.
Bon, voilà, l'heure de la deuxième minute musicale de la soirée avant de parler du FC Bayern qui va lancer sa saison en Ligue des Champions contre Chelsea mercredi soir. Les italiennes, on envoie la musique, Polo.
Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone. Perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità.
E bon, passa. Par contre, ça c'est très beau, oui, c'est, ouais, une de mes c'est une de mes chansons préférées. C'est
voilà.
Un artiste. Non, ça, Rino Gaetano, il faut quand même pas rigoler.
Rino Gaetano.
Oui, lui, il est né à Crotone, mais il est mort à Rome. Il est mort sur la même route que j'ai fait toute ma jeunesse pour aller à l'école. Donc j'ai lu penser en gros tous les jours. Et ça, c'est une chanson que j'adore, un peu tristouné, mais pas trop, parce qu'il a toujours cette gaieté dans sa voix, et il a cette vitalité qui fait de lui vraiment un mythe en Italie.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson?
Elle raconte mon frère est fils unique. Et je l'ai choisi parce que il y a eu des polémiques après les bouts de 4-3 de la Juventus, parce qu'une caméra a capté Marcus Thuram qui parlait avec son frère Kefren, avec la moitié du visage caché par son maillot, mais ses yeux, ils souriaient. Et il y avait déjà eu une polémique quand Kefren, en tribune, avait fait les gestes du hockey avec son gros pouce, avec vers Marcus. Et après les buts qu'il avait marqués contre Torino. Donc voilà, un match lambda. Et déjà là, ils n'ont pas aimé les supporters de Juventus. Et là, c'est les supporters de l'Inter qui aiment. Pas le fait que ces deux frères-là, ils s'aiment. Et ils parlent de manque de professionnalisme. Ouais, oui, il faut respecter les supporters. Il y a eu des reconstructions. Ils ont dit parce que Marcus Thuram, il est en train de dire à Kefren de dire qu'il avait fait une faute pendant que l'arbitre révisait les buts de Hadzic qui a décidé les matchs. Et voilà, même Kefren, il a dû défendre son frère. Kivu a dû intervenir publiquement. On dirait qu'en Italie, être frère dans le même terrain, adversaire, c'est un problème. Parce qu'en Italie, on se déteste furieusement entre parents et voisins par tradition culturelle.
Culturel. Pour du foot, par exemple, il a dit Marcus qu'il avait simplement dit bravo à son petit frère d'avoir marqué un but avec la Juve. Ben, bon, que vous en pensez quoi, les gars? Parce que là, on est typiquement dans les relations fraternelles qui visiblement passent en dessous en Italie des rivalités de clubs, quoi. Quelqu'un veut réagir ou pas? Julien, t'as déjà été confronté à ça, toi, ouais, en première ligue
oui,
ou pas?
Oui, mais c'est marrant. Enfin, chacun est différent, chaque famille est différente. Mais nous, quand on avait par exemple Gary Neville et Phil Neville qui s'affrontaient avec Manchester United et Everton, dans le tunnel par exemple, ils étaient tous les deux capitaines, dans le tunnel il n'y avait pas un regard, pas un mot, rien du tout quoi. C'était vraiment deux étrangers, ils se connaissaient pas, ils voulaient pas se parler, c'était jamais tu les aurais vus faire un petit câlin, un petit bisou, un petit peu ce qu'on a vu, pas de cette façon là, mais entre les deux Thuram ce week-end. Donc je trouve ça assez intéressant, et moi j'adore la famille Thuram, donc après ça me dérange pas du tout, mais je peux comprendre que pour certains ça passe très mal.
Est-ce que vous comprenez Polo, toi? Tu comprends pas ce genre de réaction de supporter? C'est un peu primaire, certes.
L'Italie, surtout.
Mais voilà, la question, c'est est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est propre à l'Italie, surtout?
C'est-à-dire, quand j'ai vu les images de la rencontre, je vois tout de suite, et je me suis dit, tiens, Daniele va nous parler de ça, parce que évidemment, en Italie, t'as l'impression qu'il y a 15 caméras sur chaque joueur, donc ça arrive évidemment. Moi, je me rappelle les frères Rummenigge, il y en a un qui était à Dortmund, l'autre au Bayern, etc. C'est pas non, à ce niveau-là, il y a pas de haine à ce niveau-là, et surtout, je comprends qu'il faut respecter. C'est vrai. Bon, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une caméra, ouais. En fait. Et en fait, c'est pas Finos, en fait. C'est pas le fait qu'il y ait une caméra. C'est que Marcus.
Ils peuvent le faire dans le vestiaire, hein,
voilà, dans le vestiaire, tout ça, c'est comme ça. Bon.
Bon, et puis c'était le derby d'Italie. Ouais. Et puis le scénario est tel que forcément, ouais, les supporters de l'équipe perdante le vivent encore plus mal. Bon, il y a un effet grossissant. Oui,
oui, Daniele. Mais si je peux me permettre, vas-y. Je pense aussi que c'est l'envie de trouver un
coupable.
Oui, voilà. Parce que même après les buts de Marcus Thuram, lui, il a pas fêté, apparemment parce qu'il a marqué avec la tête. Il était en polémique avec un journaliste de l'équipe. D'ailleurs, peut-être vous en savez plus que moi. Et donc déjà là, ils ont dit pas. Alors, il est pas vraiment content. Son père, c'était un joueur de la Juventus. Donc alors, ça veut dire que lui, il est plutôt de la Juventus. Il y a toujours l'envie d'aller chercher l'impureté, pas la perfection et la haine à côté, vraiment le plus à côté possible, même dans les mêmes vestiaires. Marcus Thuram, il faut le dire, c'était le meilleur de l'Inter avec Çalhanoğlu qui a mis un doublé, mais c'était le meilleur. Il s'est battu pour tout le match. C'était Lautaro qui a été sorti, lui il est resté sur le terrain tout le match parce que justement il était présent. Il a vraiment bien joué. Donc voilà, après moi je pense que c'est une belle histoire, le fait qu'il y a deux frères assez haut niveau là
qui marque chacun un but important, voilà, dans ce match-là.
À 7 minutes, de distance l'un de l'autre.
Et de la tête, tous les deux.
Très important.
Bon, tu nous en parleras encore, hein, de ce duel, hein, ce derby d'Italie entre la Juve et l'Inter tout à l'heure. Dans un instant, le Bayern, qui approche de sa première journée en Ligue des Champions, qui lance sa campagne européenne. On en parle avec Polo. Je vous rappelle que le 32-16 est ouvert. Hein. Les questions à poser dans la deuxième heure au Drôle de Dame, n'hésitez pas à le faire. Restez avec nous, vous écoutez RMC 20h43, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Avec les quatre drôles de dames ce soir, Julien Laurence, Polo Breitner, Edgar Grolot et Daniele Manuccia, avant de parler du FC Bayern, la Ligue 2 en France. Guingamp face à Montpellier sous les yeux de Xavier Grimaud. Bonsoir Xavier.
Salut Nicolas, salut à tous. C'est parti depuis 4 minutes à Roudourou pour le dernier match de cette 5e journée de Ligue 2. Match de mal classé, hein. Montpellier seulement 11e, Guingamp 16e. Une victoire seulement pour les deux équipes et notamment pour Montpellier qui doit se mettre au niveau de la Ligue 2 après la saison cordesque de la saison dernière. Pour l'instant toujours 0-0 ici au Roudourou entre Guingamp et la Paillade.
Alors attention, débat qui a déjà fait beaucoup réagir sur nos réseaux, sur le compte Twitter, le compte X de l'After. Le FC Bayern n'est-il plus qu'un outsider en Ligue des Champions? C'est pourtant la question qu'on se pose et qui anime des débats chez toi en Allemagne, Polo. On a du mal à comprendre aujourd'hui.
C'est surtout lié à la saison dernière. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un mercato extraordinaire. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en 5 rencontres, c'est quand même 19 buts marqués par le Bayern. Oui. Ils ont écrasé. C'était marrant ce week-end parce qu'ils ont écrasé évidemment Hambourg, ce qui était un grand classique d'ailleurs au passage des dernières,
pour 5-0.
Dernières rencontres. Et tout le monde s'est focalisé sur la faiblesse d'Hambourg, mais très peu de personnes ont parlé de la prestation du Bayern. Il y a quand même 4-0 au bout d'une demi-heure, donc les gens sont focalisés sur le manque d'envie et l'effectif assez moyen d'Hambourg. On a quand même des bonnes nouvelles. Déjà, Luis Diaz, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Ça fonctionne. Il y a un joueur qui n'a plus de pépins physiques, Gnabry, qui te marque, qui te met une praline pour le 1-0, qui te fait une prestation qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, en tout cas, tellement il avait été gêné par ses problèmes physiques. Et le problème, c'est que c'est Chelsea qui arrive. Donc c'est un gros morceau. Et on reste sur ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire le Bayern sorti en quart de finale. Oui, il y avait des absents, mais la défaite contre l'Inter n'a pas été acceptée. On a fait comprendre à Vincent Kompany qu'il n'y avait pas de plan B dans ce qu'il faisait tactiquement. C'est-à-dire que, en gros, dès qu'on pouvait prendre la défense sérieusement par derrière, hop, ça faisait but. Et ça, c'était pas logique. Et si tu veux, on est un peu là-dessus. Et puis, on en a parlé déjà dans l'after, c'est quand même le mercato. Pas spécialement celui du Bayern, celui du football allemand. Et le Bayern, eh ben, il vit un petit peu l'après Voltemad. Je peux pas me payer Voltemad, qui a fait rigoler d'ailleurs aux Lyonnaises parce qu'il dit le montant, c'est pas compliqué. Il y a Isaac qui part pour 150, ils ont de l'argent, hop, il prend 90, c'est réglé quoi. Donc et si tu veux, j'ai trouvé cette façon de instructive de critiquer le Bayern et de se dire mais finalement est-ce que ce déclassement ne va pas arriver, qui est encore une fois une thématique importante depuis le début de la saison. Et je trouve que par rapport à ce que produit le Bayern, en tout cas en Bundesliga depuis le début de la saison, c'est quand même un peu abusé.
Mais
la dernière rencontre à
Mais c'est notre saison tout ça, Polo, ils sont bien sympas tes amis allemands, mais
oui.
Mais là Olysée a grandi.
Oui.
Tu le dis.
Il est excellent.
Ils sont délestés de Leroy Sané.
C'est
Coman qui était son courant alternatif.
Ouais.
Luis Diaz s'est intégré. Harry Kane est meilleur buteur de la Bundesliga, encore une fois, l'homme est régulier.
Oui.
En novembre, tu as un retour de Jamal Musiala, Alphonso Davies aussi. C'est soit de la fausse humilité, soit de l'extrême sévérité avec cet effectif-là.
Le problème,
tu parles de la défense, éventuellement, on peut débattre de la défense du Bayern.
Le problème, par exemple, d'être déclassé, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont en quart de finale. Pour eux, ils sont considérés comme déclassés. Or, c'est peut-être par rapport aujourd'hui au football européen. Alors, évidemment, parce que, en fait, blague qui circulait en début de saison, comme d'habitude, le Bayern va remporter la Bundesliga. Ce que je pense même qu'ils vont se balader, parce qu'en plus, ils ont un calendrier favorable. Ils ont un calendrier très favorable, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer les plus gros clubs à domicile à l'aller, donc normalement, ils vont s'amuser. Et puis, on sait très bien qu'ils vont peut-être se qualifier pour le top 8, c'est pas évident. Et puis, on va avoir les gros clubs étrangers en quart de finale ou en huitième, ça va devenir compliqué. Vont rentrer à la maison. C'est ça ce qu'ils se disent dans la presse allemande. Maintenant, encore une fois, mais c'est aussi une ambiance. Bad Stuber, ancien joueur du Bayern, disait « Mais je ne comprends pas ce que fait le Bayern pour le moment. » C'est-à-dire qu'on a un sentiment qu'il n'y a pas de véritable ligne directrice. Il y a eu cette fameuse polémique le week-end dernier entre Lyonnais, évidemment, président d'honneur du Bayern Munich, qui l'ouvre tout le temps, et son directeur sportif, Max Eberl. On parle de dégradierung, c'est-à-dire qu'on a dégradé Max Eberl, qui est quand même directeur sportif et responsable de la politique sportive du club, pour avoir fait le fameux transfert de Jackson et notamment la prime à la signature. Enfin, pas la prime à la signature, quand tu le gardes un an.
La prolongation de contrat.
Le prêt avec option d'achat de plus de 13 millions d'euros, qui a fait beaucoup de polémiques en Allemagne, où Lyonnais a dit il a donné en plus, le week-end dernier, ce qui se passe, ce qu'il y avait dans le contrat du joueur. Et il dit, 13,5 millions pour une pour un prêt, c'est pas donné. Mais de toute façon, on doit dépenser en gros 80 millions en tout. S'il joue 40 joueurs, vous, il dit ça à l'antenne.
S'il joue 40 matchs.
Il dit très clairement que il va faire 39 matchs. Il ne fera jamais le 40e.
Il dit ne restera pas. C'est fou.
T'imagines le directeur sportif s'il prend la tronche. Donc après, il a essayé de se rattraper et ceci et cela. Mais c'est vrai que depuis quelques années, moi, je pensais que la restructuration aurait dû avoir lieu en 2023. Elle n'est pas encore faite, elle n'est pas encore finalisée. Mais ce qui est sûr, c'est que la masse salariale, elle a baissé, que Max Eberl a dû faire avec. Peut-être n'a-t-il pas fait des transferts assez rapidement aux yeux d'Oulionès. Mais sur le terrain, ce que propose pour le moment le Bayern Munich, ok. Mais je pense qu'on va en parler s'il y a une contre-performance contre Chelsea.
Bon, Julien, comment aborde Chelsea ce rendez-vous ? Chelsea n'est pas non plus un début de saison canon en Première Ligue. Julien Laurent, c'est-il là ?
Ouais, vous m'entendez ?
Ouais, on est là. Ouais. Je parle de Chelsea, non. Justement.
Ouais, c'est un début de saison intéressant parce qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs et un petit peu comme ce qu'on voit avec le PSG, ils ont connu quelques pépins physiques, ils ont perdu Colwill pour toute la saison, ils ont perdu Palmer, ils ont perdu Delap, même si Palmer est revenu ce week-end là. Ça connaît pas la Ligue des Champions. C'est Maresca, il va la découvrir. Oui, ils ont gagné la conférence la saison dernière, mais c'est pas la même chose. Ils avaient une équipe B pour cette compétition-là, une équipe A pour le championnat. Donc ça va vraiment être intéressant de voir ça. Moi, je pense qu'ils vont utiliser une tactique similaire de celle qu'ils ont utilisée contre le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs. Par exemple, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Ils peuvent être très agressifs au milieu de terrain. Caicedo, même Enzo. Ils peuvent mettre beaucoup d'agressivité aussi avec un Rich James, avec leurs défenseurs centraux et se projeter très, très vite vers l'avant. João Pedro, Cole Palmer, Neto, Gittens ou Garnacho de l'autre côté, ça peut aller très, très vite. Et je pense que ça va être la tactique utilisée demain. Ça leur dérange pas d'avoir 30-35% de possession de balle, surtout à l'extérieur. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour ce niveau-là, pour mais commencer voilà. avec le Bayern? C'est chaud quand même.
Mais oui, c'est chaud. Je pense que personne ne veut prendre le Bayern, en tout cas en entrée de compétition, même un peu plus tard. Tiens, puisqu'on parle d'outsider et de favori, en un mot, chez vous, qu'est-ce qu'on dit? Chez toi, Julien, on dit qu'on fait un débat qui est favori Ligue des Champions cette saison?
Oui, surtout avec les bookmakers qu'on a ici. D'ailleurs, le Bayern est plutôt haut placé. Le PSG reste en tout cas le favori pour l'instant. Il y a une raison pour laquelle aucun club sur les 8 dernières années a gardé son titre de champion d'Europe. J'aimerais beaucoup que ce soit le PSG. Je pense que Liverpool et Arsenal, pour moi, sont les deux, plus que City, plus que Chelsea, plus que Newcastle et Tottenham. C'est les deux qui, selon moi, peuvent aller le plus loin possible. Et je pense qu'Arsenal, qui parfois peut être plus une équipe de coupe qu'une équipe de championnat, finalement, peut aller encore un degré au-dessus. Ils ont fait quart de finale, demi-finale sur les deux dernières saisons. Je pense que ça peut aller encore plus haut.
Edgar, chez toi, on dit Real ou Barça?
Je dirais de manière générale, bon déjà évidemment ça dépend où tu poses la question, mais je pense que le Barça est vraiment vu comme un favori en Espagne de la Ligue des Champions parce que on estime ici qu'ils auraient sûrement dû passer face à l'Inter ou en tout cas qu'ils auraient pu passer face à l'Inter et que ça aurait pas été la même histoire face au Paris Saint-Germain en finale. Et mine de rien, t'as Lamine Yamal qui sera peut-être cette saison le joueur le plus différentiel de la compétition avec peut-être Kylian Mbappé s'il continue sur les mêmes standard qu'il est en train de commencer sa saison. En plus, c'est une saison de Coupe du Monde, donc évidemment, vous les connaissez, les Espagnols, ils donnent le Real et le Barça favori. Le Barça, plutôt grâce au jeu qu'ils ont proposé la saison dernière et grâce au fait qu'ils ont Lamine Yamal, évidemment. Et le Real aussi, parce que tous les ans, on cite le Real Madrid parmi les favoris, évidemment. Ça c'est culturel.
Daniel, c'est un sujet chez toi ou pas, le vainqueur final avec des champions?
Non, on n'en parle pas parce que c'est mieux. Mais on a parlé pour l'Inter, tu sais. L'Inter, elle avait toujours le bout de gagner, mais après la saison, elle est mal partie. Moi, j'ai dit attention à Naples, parce que franchement, c'est une équipe montée en puissance, améliorée par Conte, plus profonde avec plus de joueurs pour refaire les deux compétitions. Après, c'est complètement, comment dire, un mystère, parce que ça fait longtemps que elle fait pas des coupes. On sait que Conte, il a pas forcément un feeling avec les coupes européennes, mais bon, on va voir. Et après, si je peux me permettre, je fais aussi les noms de l'OM, parce que mon meilleur ami.
Comment?
En France,
non, c'est sérieux, si c'est l'after.
Tu sais, moi, j'ai aussi des amis. Moi, j'ai vécu à Paris, mais mon meilleur ami, il supporte l'OM, donc je dois dire l'OM.
Ouais, avec la liste de courses de l'OM, garçon, on va attendre quand même. Dans un instant, on parlera encore de Ligue des Champions avec les drôles de dames, bien sûr. On parlera aussi de Ruben Amorim, qui lui en est privé avec Manchester United. Évidemment, combien de temps va-t-il encore tenir à la tête des Red Devils? Tiens, l'Atalanta, qui joue avec des champions cette saison et qui commencera par le Paris Saint-Germain. Est-ce que l'Atalanta est une menace crédible, au moins sur la première journée face à Paris? On va en débattre ensemble avec les drôles de dames. Vous écoutez RMC 20h58. On revient dans moins de 2 minutes 30. À tout de suite.